Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Tempête sur le golfe Persique. Tout au long de la semaine, de déclarations fracassantes en incidents armés, la tension entre Washington et Téhéran n'a cessé de s'aggraver. Au durcissement des sanctions américaines qui asphyxient son économie, à l'envoi dans la zone d'un porte-avions et de B-52, l'Iran a répliqué en menaçant de sortir à son tour de l'accord nucléaire et encourage les factions houthies du Yémen à saboter des installations pétrolières saoudiennes. Citant, je cite, l'agression iranienne, Washington débloque des ventes d'armes à destination de l'Arabie Saoudite qui hausse le ton. Les Émirats, de leur côté, redoutent évidemment une fermeture du détroit d'Ormuz qui les étranglerait à leur tour. La nervosité gagne tous les acteurs de la région. On connaît le tempérament éruptif du président américain. On sait aussi qu'au-delà des divisions de son entourage, la question iranienne tourne chez lui à l'obsession, une obsession partagée par Benjamin Netanyahou comme par la monarchie saoudienne. Un missile peut partir aussi vite qu'un tweet et l'instabilité ambiante multiplie les risques d'incidents. Ce matin, Washington annonce le déploiement de 1500 hommes supplémentaires et le ministre iranien des Affaires étrangères parle d'une menace sur la paix internationale. Comment donc enrayer cet engrenage dans lequel semble pris le régime iranien comme la Maison-Blanche ? Pression maximum, affirme Donald Trump, mais pour quelle stratégie ? Jusqu'où l'aggravation de la situation économique iranienne fait-elle au contraire le jeu des durs du régime ? Pourquoi Washington resserre-t-il son emprise sur Bagdad, capitale d'un Irak en décomposition ? Quel impact enfin sur le cours du pétrole et donc sur nos économies ? C'est ce que nous allons explorer ce matin. Grâce à vous, Maya Candel, bonjour. Vous êtes chercheuse associée à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Fatia Dazieni, nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes chercheuse, vous, à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Clément Terme est à Paris, chercheur à l'International Institute for Strategic Studies, basé en partie au Bahreïn. Et par téléphone, je l'en remercie, Pierre-Jean Luisard, directeur de recherche au CNRS, historien spécialiste des islams au Moyen-Orient. Clément Terme, cette annonce ce matin d'un déploiement de 1500 militaires américains de plus, la reprise des ventes d'armes à Riyad malgré l'hostilité du Congrès américain qui s'y était opposé, la riposte verbale du ministre iranien des Affaires étrangères qui parle de menaces sur la paix internationale, tout cela ajoute à l'inquiétude que vous avez pu constater. Je crois que vous arrivez tout juste d'Abu Dhabi en l'occurrence.
Oui, tout à fait. Dans la région, on est passé de l'inquiétude sur la rive arabe, en tout cas du golfe Persique, de l'inquiétude vis-à-vis des réseaux d'influence de l'Iran et des activités iraniennes hors des frontières de l'Iran, en l'occurrence au Bahreïn ou dans les pays de la zone, à une inquiétude qui est devenue une menace proche, pour le coup, c'est une guerre américaine dans le golfe Persique. Donc la politique menée par la Maison-Blanche a pour l'instant produit l'effet inverse de l'effet final recherché, puisque l'idée était de parvenir au changement de régime à travers une asphyxie économique de l'Iran et, si utilisation de l'option militaire, un bombardement de l'Iran. Mais je pense que les stratèges militaires à Washington ont informé l'équipe de John Bolton et du président du fait que sans troupes au sol, il sera très difficile de parvenir à l'objectif qui est le changement de régime contre l'Iran.
Comment se manifeste la tension à Abu Dhabi, par exemple ?
Simplement que le discours a changé. C'est-à-dire qu'auparavant, le discours dans les médias locaux était très anti-iranien. Il y avait une forme de surenchère ou une tentative d'influencer la Maison-Blanche pour avoir une attitude encore plus hostile vis-à-vis de l'Iran. Et là, pour le coup, on observe un effet inverse, c'est-à-dire un effort de rechercher le calme, de l'apaisement, le discernement, la sagesse. On évoque des mots qui sont très différents pour parler de la situation régionale, parce que le risque perçu, ressenti par la population et par les gouvernements locaux, et c'est ça qui est très nouveau, c'est le risque d'une confrontation militaire et ses ramifications régionales.
Il y a même eu des exercices d'urgence.
Il y a une situation d'urgence, c'est-à-dire qu'il y a des compagnies d'assurance qui ont classé la zone à risque. Sur la base militaire américaine, il y a une situation qui est nouvelle, puisque les troupes sont amenées peut-être à moyen terme à obéir à un ordre de la Maison-Blanche qui serait un bombardement de l'Iran.
Mais donc ces Émirats, à commencer par Dubaï, qui prospèrent quand même grâce à l'Iran.
Oui, la situation économique n'est pas
bonne. Il y a beaucoup d'ayatollahs qui ont mis leurs économies, c'est le moins qu'on puisse dire, à Dubaï. Tous ces Émirats, même Abu Dhabi, qui est pourtant le plus proche de Riyad, ils n'ont aucun intérêt à ce que cette tension perdure.
Parce que la priorité, je pense, pour ces petits pays du Golfe Persique, c'est préserver la prospérité économique. C'est des pays qui ont une performance économique tout à fait remarquable. Et ce bien-être, cette situation économique est leur priorité. Donc quand l'Iran avait des activités qui, à leur sens, menaçaient la sécurité régionale, ils avaient un discours très offensif vis-à-vis de l'Iran. Mais là, si la solution à la crise iranienne ou au problème, entre guillemets, que pose l'Iran pour ces pays en termes de sécurité est une nouvelle guerre, ils estiment que le statu quo est préférable. Et c'est ça qui est nouveau dans la région.
Maya Kandel, Donald Trump, comme à son habitude, a émis des propos contradictoires. Il a fait lundi dernier une déclaration fracassante du style « Si l'Iran veut se battre, ce sera la fin de l'Iran ». Donc aussitôt, les Iraniens ont dit « Mais si les Américains parlent de génocide, l'Iran est éternel ». Et puis, Trump, jeudi, dit à son ministre de la Défense, qui n'est pas encore confirmé par le Congrès, qu'il ne veut pas la guerre. Donc, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que cela veut dire, en l'occurrence ?
Je crois que ce qui est fascinant dans cette... fascinant et extrêmement inquiétant, hein, mais ce qui est fascinant dans cette politique américaine vis-à-vis du Moyen-Orient et de l'Iran en particulier en ce moment, c'est que ça concentre vraiment toutes les contradictions, les limites, tout ce qui caractérise Donald Trump. Or, il y a deux choses qui sont vraiment qui sont importantes, c'est que on sait que Trump ne veut pas la guerre, c'est que c'est au cœur de sa promesse, il l'a promis à ses électeurs, il a le regard aujourd'hui rivé sur sa réélection en 2020. Donc il est à la fois pris dans cette surenchère vis-à-vis de l'Iran, où il se trouve confronté un peu aux mêmes limites qu'Obama avant lui. C'est-à-dire Obama avait fixé des lignes rouges vis-à-vis de la Syrie.
Oui, l'expression n'était
voilà,
pas de mauvais souvenir. Oui.
Finalement, maintenant, avec Trump, on a un peu le même phénomène avec ses tweets. Il fait des tweets extrêmement menaçants et en même temps, on sait qu'il ne veut pas la guerre. Il le fait, il le répète à son ministre de la Défense, comme vous l'avez dit. Il le répète au Congrès toute la semaine. Ça a été aujourd'hui, cette semaine à Washington, des responsables républicains qui répétaient l'Iran doit nous obéir, mais nous ne voulons pas la guerre, hein, pour caricaturer. Donc il y a cette limite. Mais après, le problème, bien sûr, c'est qu'il y a comme conseiller à la sécurité nationale à la Maison-Blanche, John Bolton, dont on sait, il l'a écrit...
L'homme à la moustache blanche.
Voilà, l'homme à la moustache. Il l'a écrit, il l'a répété, il l'a...
Ancien asséné. Ambassadeur à l'ONU, hein, quand alors, il était ambassadeur à l'ONU de W. Bush... Là, il attaquait l'Iran.
Il attaquait l'Iran en permanence. C'est aussi une sorte de, si vous voulez, c'est un peu le grand prêtre de cette tendance, cette religion souverainiste où les États-Unis doivent être agir de manière unilatérale. Il est très militariste également. Bon, là, est-ce qu'il est néoconservateur, ça se discute un peu plus. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est obsédé par l'Iran depuis 20 ans et qui, effectivement, lui, est favorable au changement de régime.
Mais il y a aussi Pompeo, le ministre des Affaires étrangères.
Pour moi, Pompeo, il est un peu entre les deux. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a toujours été dans le camp des durs sur l'Iran, mais en même temps, c'est un politique, c'est un opportuniste, franchement. Et cet homme marche un peu sur la corde raide entre Bolton et Trump, mais c'est quand même quelqu'un qui sert son boss, il a des ambitions politiques. Bolton, ça fait 20 ans qu'il se prépare à ce rôle et il a des idées très précises sur la manière dont les États-Unis doivent agir à l'étranger et envers l'Iran en particulier.
Mais quels objectifs pour la Maison-Blanche ? Parce qu'on voit à la fois, bon, il faut empêcher... donc ils seront sortis du traité nucléaire en mai 2018. Donc, empêcher toute reprise des ambitions nucléaires iraniennes. Bon, empêcher aussi le programme de missiles balistiques qui n'était pas inclus dans ce traité, arrêter, dit la Maison-Blanche, le soutien au terrorisme et aussi le changement de régime. Mais jusqu'à quel point est-ce que ces quatre objectifs sont déjà compatibles entre eux ?
Alors, compatible, c'est effectivement une question. Je crois que pour Trump et son équipe hors Bolton, qui joue un peu son jeu solo, et on va voir combien de temps il reste, parce que c'est pas sûr qu'il reste indéfiniment à son poste, mais pour Trump et son équipe, la priorité, c'est la politique régionale de l'Iran. Parce qu'en fait, il y a des continuités par rapport à Obama, et je crois que là, on le voit aussi avec le cap de la réélection. Trump, son combat, sa priorité à l'international, c'est la Chine. Et donc, il y a cette même philosophie qu'on avait déjà sous Obama, qui était de mettre à distance le Moyen-Orient, de ne pas être entraîné encore dans des guerres, évidemment, mais même au-delà, de pouvoir concentrer, pour les États-Unis, de pouvoir concentrer leur attention sur le vrai rival, le vrai défi pour eux du 21e siècle, qui est la Chine.
Mais là, il y a du réengagement au Moyen-Orient.
Alors voilà, c'est-à-dire que Trump s'appuie pour ça sur Netanyahou et sur les leaders de l'Arabie Saoudite et des Émirats. Mes collègues ici peuvent en parler
Ils vont
mieux.
Le faire, d'ailleurs.
Ils se retrouvent un peu... ce sont ces acteurs-là que la politique régionale de l'Iran dérange en priorité. Enfin, il y a une rivalité d'empire entre l'Arabie Saoudite et l'Iran en particulier. Et voilà, je pense que Trump, très sincèrement, ne veut pas d'une nouvelle guerre, ne veut pas que les États-Unis soient happés par une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Et en fait, on l'a vu, vous évoquiez en introduction le nouveau déploiement. En réalité, c'est un redéploiement de troupes sur place pour l'essentiel et l'envoi de 900 nouveaux soldats américains qui seront vraiment sur des positions défensives qui doivent opérer les missiles Patriot. Donc, et on a vraiment cette insistance, y compris de la part du Pentagone, y compris Shanahan, qui disait encore il s'agit d'un déploiement défensif.
Mais c'est quand même un signal, et un autre signal, Fatia Dazieni, vous connaissez très bien en particulier l'Arabie Saoudite. On a appris par la bouche de Monsieur Pompeo, donc le secrétaire d'État américain, que la Maison-Blanche allait passer outre les réticences ou même la résistance du Congrès et reprendre des livraisons d'armes qui étaient bloquées jusqu'ici, après l'assassinat de Khashoggi en particulier, reprendre des livraisons d'armes à destination de Riyad. Donc ça, évidemment, c'est applaudi par le jeune prince héritier, qui lui aussi hausse le ton, parce qu'il y a eu quand même des attaques de drones armés venus des Houthis, c'est-à-dire les rebelles yéménites qui sont soutenus par l'Iran.
Il est clair que Bin Salman, qui est embourbé dans cette guerre avec le Yémen, a tout intérêt à faire jouer justement le fait que l'Iran est derrière ces attaques houthistes sur le territoire saoudien.
Mais c'est un fait. Aucun expert ne le conteste. On imagine mal les Houthis capables de fabriquer des drones et des drones sous-marins en particulier avec des explosifs.
Oui, mais on
n'a
pas attendu
dessus.
Ces attaques de drones pour que le territoire saoudien, depuis plusieurs années, soit l'objet d'attaques par les Houthis, que ce soit par des missiles des infiltrations. Donc, résumer la main iranienne derrière ces actions Houthis me semble un petit peu aller trop vite. D'abord, d'une part, les Iraniens vous disent... Alors, ils ont un double jeu aussi, les Iraniens, c'est vrai. Ils vous disent, nous, on n'a pas du tout la main sur les Houthis. À chaque fois qu'on leur a donné des conseils, ils n'ont pas suivi nos conseils, ce qui visiblement est vrai. Et d'un autre côté, ils vous disent, plus les Saoudiens vont soutenir les sanctions américaines contre nous, ça voudra dire que c'est un acte de guerre. Donc, derrière ça, la menace, effectivement, de mettre de l'huile sur le feu avec les Houthis, par exemple. Ça, c'est certain. Mais quand vous disiez que les États-Unis avaient interrompu leur livraison d'armes, non, c'est pas le cas.
Il y avait... Non, le Congrès a voté une résolution bipartisane pour dire... On arrête les livraisons d'armes à hauteur, de 11 milliards de dollars l'Arabie Saoudite se sert de ses armes au Yémen. On est bien obligé de s'en rendre compte. Pour la deuxième fois, si ma mémoire est bonne, le président Trump a fait jouer un veto.
Absolument.
Et donc, ce que l'on a appris hier par la bouche de M. Pompeo, c'est que oui, ils vont passer outre cette décision du Congrès et ils vont reprendre ces livraisons d'armes. Donc c'est quand même clair et net.
Mais c'est clair, même si l'Arabie Saoudite effectivement est vouée aux gémonies depuis cette affaire Khashoggi par la communauté internationale et notamment par les pays occidentaux, on se rend compte que l'Arabie Saoudite est quand même le pays qui pourrait jouer, si vous voulez, en termes de rééquilibrage des rapports de force dans cette région. Alors, pas du tout dans le golfe Persique, mais en tout cas sur la mer Rouge. Parce que, en fait, l'enjeu stratégique, il se joue beaucoup plus à l'embouchure de la mer Rouge, sur le détroit du Bab el-Mandeb, parce que les Saoudiens et les Émiratis, dans leur guerre au Yémen et dans leur projection de l'emprise des ports sur les pays de la Corne de l'Afrique et sur le pourtour du Yémen, ont pour ambition de contrôler cette voie maritime de la mer Rouge vers le canal de Suez, pour faire contrepoids, si vous voulez, au contrôle par les Iraniens du détroit d'Ormuz. Donc en fait, la bataille stratégique est là-dessus, même si effectivement, les bruits de bottes, la tension se concentrent sur le golfe Persique et sur cette hostilité irano-américaine.
Alors Riyad a convoqué pour le 30 mai, donc dans quelques jours, un sommet d'urgence des États du Golfe. Ça inclut toujours le Qatar. Enfin, tout ça est quand même assez bizarre à comprendre vu de chez nous, puisque le Qatar fait toujours l'objet du blocus. Et il semble que dans la presse, enfin ce qui tient lieu de presse en Arabie Saoudite, la presse officielle, le discours c'est maintenant il faut attaquer l'Iran. Et j'ai lu quelque part qu'il y a même une vidéo, une animation où l'on voit MBS lui-même menant l'invasion contre l'Iran. Ça veut dire que on encourage le nationalisme nationalisme saoudien dans les réseaux sociaux en particulier.
Alors, il faut faire une petite inflexion là-dessus parce que, comme le disait très bien tout à l'heure Clément, moi, ce qui me frappe, c'est que justement, en général, quand il y a beaucoup de tensions, tout s'enflamme sur les réseaux sociaux. Et là, les réseaux sociaux sont assez calmes. Alors c'est vrai qu'en Arabie Saoudite, ça se fait par voie de presse interposée, sachant que la presse est totalement contrôlée par Mohammed bin Salman. C'est son groupe de presse qui contrôle. Donc quand Arab News annonce qu'il faudrait faire des frappes ciblées en représailles contre l'Iran, moi c'est tout ce que j'ai vu. J'ai pas vu.
Cette vidéo.
C'est vrai que c'est vrai qu'aujourd'hui le répertoire saoudien il est ultra nationaliste, je dirais hyper nationaliste et très exacerbé sur ces questions de menaces iraniennes, menaces existentielles, etc. D'où le rapprochement tacite par intérêt avec Israël. Et donc, tout ce qui est rhétorique très nationaliste, anti-iranienne, joue à plein. Alors, les vidéos, par voie de presse, mais les déclarations officielles restent quand même extrêmement... ça va vers l'apaisement. Hein. Ils ont très très peur d'une guerre, hein, c'est clair.
Bien sûr, bien sûr. Pierre-Jean Luizard, merci beaucoup d'être avec nous par téléphone ce matin. Vous connaissez très bien la région et en particulier la situation aujourd'hui en Irak. On a appris la semaine dernière, me semble-t-il, l'évacuation des diplomates américains de Bagdad et même d'Erbil, qui est la capitale du Kurdistan d'Irak, ou ce Kurdistan d'Irak qui a été fort heureusement à l'écart de toutes les dernières guerres. Pourquoi cette évacuation? Est-ce que c'est une manière pour Washington, là aussi, de dramatiser les enjeux régionaux?
Oui, tout à fait. Il y a une surenchère qui a été évoquée et l'Irak est probablement de tous les pays de la région celui où les contradictions régionales et internationales jouent le plus, puisqu'il faut rappeler que le régime en place aujourd'hui à Bagdad ne peut se maintenir que par ce qui a été une convergence d'intérêts entre l'Iran et l'Amérique. Je rappelle notamment que lors de la bataille de Mossoul, l'armée irakienne et les milices chiites qui sont diabolisées aujourd'hui n'ont pu avancer qu'en se positionnant par rapport à la couverture aérienne des bombardements d'une coalition militaire dirigée par les États-Unis contre Daesh. Donc il y a un retournement d'alliance inavoué avec l'arrivée de Trump au pouvoir depuis janvier 2017, dont le régime actuel en place à Bagdad et l'autonomie kurde risquent d'être les premières victimes.
Les milices chiites auxquelles vous faites allusion, donc il faut rappeler que le pouvoir à Bagdad est chiite. il y a une minorité sunnite dans la population irakienne, mais Washington dénonce maintenant le fait que ces milices chiites seraient sous le commandement direct des gardiens de la révolution iranien, cette organisation que Washington aussi désormais qualifie d'organisation terroriste.
Oui, il n'y a rien de nouveau dans le lien avéré entre les différentes milices chiites irakiennes en Syrie et au Liban. Hein, le lien du Hezbollah avec les gardiens de la révolution iranienne est un secret pour personne. Je crois et je suis d'accord avec ce qui a été dit que l'objectif n'est pas une guerre entre l'Amérique et l'Iran, mais bien de mettre un terme à ce qui est perçu comme une expansion sans limite de l'Iran à la faveur du délitement et de l'effondrement d'un certain nombre d'États arabes, notamment l'Irak, la Syrie, le Yémen et le Liban, dont on sait que l'État libanais est aux mains de différentes factions qui se disputent le pouvoir. Et c'est, je crois, l'objectif de Trump, c'est de signifier à l'Iran que trop c'est trop, l'Iran ne peut pas avoir la main à Bagdad, à Damas, à Beyrouth et à Sanaa, et qu'il faut prendre en compte un rééquilibrage des puissances. Alors le problème, c'est que pour ce faire, Trump utilise la menace, et il y a toujours un danger de voir cette menace à la merci d'un dérapage incontrôlé.
Clément Terme, avec vous, nous retournons sur l'état des lieux en Iran. Donc, au début de ce mois-ci, Téhéran annonçait, en riposte au durcissement des sanctions économiques américaines, qui désormais empêchent la livraison de pétrole aux quelques pays qui bénéficiaient d'une exemption, notamment la Chine. Téhéran annonçait une reprise de la production de ces centrifugeuses, et une reprise de l'accumulation de matériel nucléaire, même si les experts disent qu'il faudrait longtemps avant qu'ils retrouvent une vraie capacité en la matière. Ils disent aussi que si la situation empire, ben les Houthis sont toujours là. Le Hezbollah libanais, Pierre-Jean Lebizer vient d'y faire allusion, est quand même leur bras armé en Syrie, et c'est ce qui a permis à Bachar el-Assad de sauver sa peau. Donc, quelle est aujourd'hui la marge de manœuvre de Téhéran par rapport aux ambitions américaines pour justement juguler cette emprise régionale qui est effectivement considérable?
Je pense que l'erreur américaine est de penser qu'il y a une logique économique derrière la politique régionale de l'Iran. En fait, la politique régionale de l'Iran est contre-productive pour les intérêts économiques iraniens. C'est pour ça qu'il y a une confusion souvent en Occident sur le fait que la République islamique serait nationaliste. Non, la politique régionale de l'Iran n'est pas nationaliste, elle est révolutionnaire. Et donc c'est là où il y a le...
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que l'objectif, c'est l'expansion idéologique. C'est pas l'expansion de la nation iranienne. D'ailleurs, les Iraniens, quand ils essayent d'augmenter leur présence dans le monde arabe, ils gomment la dimension iranienne séculière de leur identité pré-islamique, par exemple. Ils insistent sur la dimension musulmane de l'identité iranienne et ils réduisent l'Iran à la théocratie. Mais du coup, cette politique est mal conçue parce qu'elle part d'une hypothèse qui est erronée. Et par contre, ce qu'elle risque de produire, c'est une réutilisation par Téhéran. Ce qu'on appelle les proxys, c'est-à-dire les alliés de l'Iran, Pierre-Jean Luizard en a parlé, le Hezbollah, les milichites, non pas à des fins d'expansion idéologique, mais à des fins de survie économique. Donc pour contourner les sanctions, et notamment c'est ce qu'on va voir en Irak, puisqu'il y a 12 milliards de commerce entre l'Iran et l'Irak. Pour l'accès au dollar, l'Irak est très important. Donc l'Iran a des capacités de contournement des sanctions, et ses alliés dans la région vont être utilisés pour ça. Maintenant, sur l'aspect nucléaire que vous avez évoqué, je pense que si le président Obama avait changé, et même Bush à la fin, avait fait évoluer la politique américaine, c'est parce qu'il y avait eu cette prise de conscience comme quoi la politique de changement de régime vis-à-vis de l'Iran, par l'asphyxie économique, l'utilisation de l'option militaire, ou en créant une insurrection, parce que la CIA aujourd'hui et les Américains financent de nouveau les programmes de démocratisation de l'Iran, ça veut dire la diaspora iranienne, etc., une tentative d'instrumentalisation des opposants iraniens à l'étranger contre la République islamique, et donc produit une nucléarisation de l'Iran. parce qu'il y a un sentiment d'insécurité du régime. Et donc, au lieu, par pragmatisme économique, de stopper le programme nucléaire, ce qui serait une décision de bon sens hein, pour le bien-être de la population iranienne, au contraire, ça produit une nucléarisation accélérée du pays. Et là, le risque, c'est que les États-Unis soient capables, grâce à la réaction iranienne, d'entraîner les Européens, les Russes et les Chinois dans cet agenda de confrontation avec l'Iran. Et donc de provoquer un consensus, finalement, et que cette politique, qui aujourd'hui est critiquée hein, à l'extérieur des États-Unis par la communauté internationale, finisse par créer consensus en raison de la réaction iranienne qui sera suscitée par cette politique. Et c'est le pari des néoconservateurs américains, parce que je pense qu'on peut qualifier John Bolton de néoconservateur. Et ils ont des alliés hein, dans les États occidentaux, donc ils sont pas tout seuls. Et ils provoquent déjà une montée en puissance de ces groupes-là dans les États occidentaux.
Alors les Européens, on le sait, essayent vaille que vaille de maintenir ce traité nucléaire en vie, non. Mais le système de troc ne fonctionne pas.
Non, il y a une hypocrisie, je pense, là-dessus, sur la position de l'Europe. L'Europe n'a pas de souveraineté économique et n'a pas de contrôle sur le secteur privé.
Oui, pas de souveraineté économique en la matière, puisqu'il y a non seulement les sanctions américaines, mais il y a l'extra territorialité du dollar, c'est et donc ça. Évidemment...
Donc les entreprises n'obéissent pas au président Macron, donc il n'y a pas de capacité. Donc la part du contrat que devait remplir l'Europe dans le contrat qui avait été conclu par Obama, c'est-à-dire que le président Obama encourageait le secteur privé européen à aller en Iran pour que l'Iran respecte l'accord sur le nucléaire. Malheureusement, le président Trump a changé la politique et ce qu'on observe au niveau européen, c'est un décalage de plus en plus immense entre le discours bureaucratique, donc du Quai d'Orsay, de Mogherini au niveau de l'UE, et la réalité de l'action européenne. Parce qu'aucune décision, finalement, n'a été prise par les pays européens pour protéger l'accord sur le nucléaire. Parce qu'ils ne veulent pas acheter du pétrole, par exemple, iranien, avec la Banque Centrale Européenne. Même les institutions européennes n'ont pas été à même de remplir la part du contrat. Donc, si vous voulez, la motivation économique de l'Iran à respecter le contrat en suivant le conseil des Européens est très faible. Mais en même temps, la Chine, et là c'est la clé à mon avis de l'avenir, c'est la Chine, a cette confrontation commerciale avec les États-Unis. Et le problème, la faiblesse, parce qu'il y a une faiblesse hein, quand même dans la stratégie économique de Trump, même si elle est très efficace avec la récession de 6% en Iran aujourd'hui.
Récession de 6% en Iran et une inflation galopante.
Ouais, 40 à 50%. Et pour les produits alimentaires, c'est immense. Donc la population iranienne est terriblement affectée. La classe moyenne est en train d'être détruite en Iran. Mais la Chine va utiliser l'Iran dans une carte dans ses négociations avec les États-Unis. Donc la Chine a déjà annoncé qu'elle recommençait à acheter du pétrole iranien. Et elle a une certaine forme de souveraineté. Donc elle n'est pas au niveau de soumission de l'Europe par rapport aux injonctions américaines. Elle a une capacité de résilience et elle a son système de troc et une capacité, par exemple, pour des projets de 100-200 millions de dollars à investir en Iran, dans les infrastructures. Donc il y aura, et la Russie de même, donc il y aura cette... voie de respiration pour la République islamique qui va durer et peut-être qui va aussi pousser les pays de la région à aller de ce côté-là. Parce que s'ils craignent la guerre, ce qu'on peut espérer, c'est que les Émirats arabes unis, notamment, essayent d'influencer Washington, et Fatia a évoqué le cas de l'Arabie, vers plus d'apaisement. Pas forcément pour les conflits régionaux, parce que là, pour eux, c'est une urgence, la position de l'Iran, toujours. Mais le risque d'un conflit plus global, parce qu'un conflit avec l'Iran, c'est quelque chose de très, très important pour les pays de la région.
Et c'est quelque chose de très important pour l'économie mondiale, ne serait-ce qu'à cause des flux pétroliers qui sont produits dans la région et qui passent en particulier par le détroit d'Ormuz. Éric Scholl, bonjour. Vous dirigez Courrier International, notre partenaire. Ce détroit d'Ormuz, donc, qui étrangle en quelque sorte les deux rives côté iranien et côté émirati. Et là, on redécouvre à quel point cet enjeu est stratégique.
Oui, c'est ce que nous dit le site The Conversation. Tout le trafic maritime en provenance des pays riches en énergie du Golfe converge vers ce détroit, y compris les exportations de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié, alors en provenance d'Iran, d'Irak, du Koweït, du Bahreïn, du Qatar, d'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Les chiffres varient selon les experts, mais on peut dire qu'environ 30% du pétrole de la planète transite par ce détroit en forme d'accent circonflexe. complexe qui sépare donc le golfe d'Oman du golfe Persique. Il s'agit d'un couloir long d'une quarantaine de kilomètres et bordé donc d'un côté par l'Iran au nord et au sud par Oman, dans lequel passent chaque jour 17 millions de barils de brut. Malgré son étroitesse, cette route est en réalité assez profonde pour accueillir les plus grands tankers du monde, précise le magazine Fortune. Trafic pétrolier, passage hyper étroit dans sa plus petite largeur, il ne dépasse pas 60 km. On comprend pourquoi ce détroit d'Ormuz, qui sert à approvisionner notamment les pays d'Asie en énergie, est vulnérable et qu'il est devenu une cible de choix.
Et c'est pas la première fois qu'une telle menace existe.
Non, le site The Conversation rappelle qu'il était devenu un théâtre de conflit pendant la guerre Iran-Irak. C'était dans les années 1980, au cours de cette guerre des tankers, c'est comme ça qu'on l'avait appelé. Chaque camp tentait de couler les exportations d'énergie de l'autre. Alors pendant les 4 années de ce conflit, plus de 600 navires ont été attaqués. Et à l'époque, rappelle le site, les taux d'assurance maritime pour les navires circulant dans le détroit ont grimpé jusqu'à 400%. Ce surenchérissement des coûts a probablement alimenté la hausse des prix de l'essence et du diesel à l'échelle mondiale. Analyse le site. Aujourd'hui, cette menace n'a pas disparu pour une raison simple que rappelle la journaliste de Fortune. Ce qui rend le détroit d'Ormuz aussi indispensable dans cette région du monde, c'est l'absence d'un plan B. Il y a certes des pipelines construits par les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, mais ceux-ci n'ont pas la capacité d'acheminer autant de brut que les bateaux pétroliers, précise la journaliste.
Oui, des pipelines qui aboutissent donc dans ce tout petit émirat dont on a découvert en quelque sorte l'existence et qui est juste au sud du détroit d'Ormuz. Mais est-ce qu'on risque quand même ce scénario de blocage principal se reproduire?
En tout cas, avec cette menace des autorités iraniennes de bloquer le détroit, on peut effectivement le penser, d'autant qu'on a vu ces dernières semaines des sabotages sur des bateaux à proximité du détroit. Selon le site The Conversation, l'Iran aurait toutefois certainement du mal à stopper complètement la circulation maritime dans ce détroit. Les cargos qui naviguent aujourd'hui sont modernes et difficiles à couler, écrit The Conversation. Contrairement aux années 80, la plupart des tankers possèdent aujourd'hui des doubles coques, mais l'Iran conserve quand même des moyens de faire des dégâts. Je cite toujours le site, même des petites entraves au trafic commercial pourraient déclencher des dommages économiques susceptibles d'entraîner des hausses de taux d'assurance, des inquiétudes sur le marché de l'énergie et des perturbations dans les bourses. Alors il faut mentionner ici les nouveaux risques qui n'existaient pas il y a 30 ans. Téhéran pourrait par exemple se livrer à des cyberattaques pour détruire les infrastructures pétrolières arabes. Au total, nous récapitule le Washington Post, si cette route devait être coupée, l'ensemble des approvisionnements en pétrole chuterait de 20%. Mais attention, une fermeture du détroit d'Ormuz ne serait pas insurmontable pour les États-Unis, dans la mesure où cette route ne menace pas nécessairement leur sécurité énergétique, précise le journal Fortune, qui poursuit, depuis le boom des gaz de schiste, les États-Unis sont devenus exportateurs de pétrole et de gaz et non plus importateurs. Ça ne veut pas dire qu'ils se désintéressent évidemment de la situation, bien au contraire, mais comme le précise le Washington Post, ils ne sont pas les seuls à s'inquiéter à partir du moment où une majorité des barils de pétrole sont destinés au marché asiatique et en particulier au Japon, à la Chine et à l'Inde.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine O'Krent.
Maya Kandel, je rappelle que vous êtes chercheuse associée à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3, spécialiste des États-Unis. On voit que Donald Trump, qui est, et vous le rappeliez ainsi que Clément, préoccupé d'abord par la Chine, utilise l'arme économique pour obtenir un meilleur deal, pour reprendre sa formule. Et c'est bien évidemment le sens de ce durcissement des sanctions. Néanmoins, la capacité d'asphyxie de l'économie iranienne n'est pas totale. Je veux dire, cette économie peut quand même trouver quelques substituts, quelques canaux de substitution.
Alors, c'est vrai que cette politique de Trump au Moyen-Orient vis-à-vis de l'Iran, c'est tout à fait symptomatique de la politique étrangère dans l'ensemble de son administration, qui est...
C'est vraiment, l'arme économique d'abord.
Voilà, c'est vraiment les instruments économiques en priorité, plutôt que les instruments militaires ou diplomatiques de la politique étrangère. Donc ça, c'est vraiment une des lignes directrices de sa politique étrangère. Et... c'est le principe de la politique de pression maximale vis-à-vis de l'Iran. Alors, on pourrait dire que dans un sens, elle a fonctionné. En en empêchant, en réduisant les moyens qu'a l'Iran de financer ses proxys dont on parlait tout à l'heure. Et finalement, on voit que là, depuis quelque temps, l'Iran utilise ses proxys d'une manière plutôt de pouvoir de nuisance, plutôt qu'avec une vraie politique comme auparavant. Donc, je crois
aussi... Parce qu'elle a moins de moyens pour le faire.
Parce qu'elle a moins de moyens. Donc, là-dessus, on est bien obligé de reconnaître que, à cet égard, la politique de pression maximale a réussi. Et toute l'idée derrière cette utilisation de l'outil économique vis-à-vis de l'Iran, c'était justement de dire... On ne veut pas un changement de régime, mais on veut que l'Iran change de politique. Comme ce régime, en effet, ne changera pas de politique parce qu'il est, par essence, par définition, révolutionnaire.
Oui, il ne sera pas un pays normal, pour reprendre l'expression qu'on entend à Washington. Il faut que l'Iran devienne un pays normal.
Mais exactement. Alors, Bolton, et c'est là qu'on a
curieux
ce schisme dans l'administration. Bolton, lui, a bien compris que pour que l'Iran soit un pays normal, en gros, il faut que l'Iran cesse d'être la République islamique.
Et révolutionnaire, comme le rappelait Clément.
Voilà, qu'il cesse d'être révolutionnaire. Donc. Et le reste de l'équipe Trump qui ne veut pas de guerre fait le pari que finalement, en lui coupant les vivres, en quelque sorte, on arrivera au même résultat.
Alors l'arme économique on attend depuis 2 ans maintenant le fameux plan de règlement du problème israélo-palestinien que le gendre de Donald Trump, Jared, et son ami le prince héritier d'Arabie Saoudite étaient censés mettre au point. Mais ce qui filtre, c'est que là aussi l'argument américain est économique. Il consiste à dire aux Palestiniens, vous aurez beaucoup d'investissements. Et donc, oui, d'accord, on vous demande d'abandonner toute prétention politique sur Jérusalem, mais vous allez connaître la prospérité. Donc, on voit bien, là aussi,
on a un primat de l'économie. On a un businessman au pouvoir aux États-Unis et sa famille. Donc, effectivement, il y a cette manière. Alors, c'est assez ahurissant s'agissant en plus du Moyen-Orient, mais ça pourrait l'être de toute région du monde. C'est vraiment de dire... Finalement, tous ces problèmes, si on donne des incitations économiques aux Palestiniens, s'ils vivent un peu mieux, tout ira bien et le problème sera réglé. Donc, et puis en plus, c'est avec l'argent des autres, parce que les Américains entendent organiser un sommet pour que des gens de la région ou d'autres, peut-être des milliardaires américains, enfin que sais-je, investissent, mais ils n'entendent pas mettre les moyens de l'État américain derrière ce plan, apparemment, pour ce qu'on en sait.
Quelle est, selon vous, la réalité de cet axe que l'on voit à l'œuvre sur plusieurs théâtres, donc un axe Trump, Netanyahou, Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien.
Et Mohamed Ben Zayed aussi.
Et Ben Zayed, qui est donc le prince héritier d'Abu Dhabi et qui est le mentor à plus d'un titre du jeune saoudien.
Qui avait d'ailleurs très rapidement approché la famille Trump et la Maison Blanche juste après l'élection, avant la prise de pouvoir.
Et même pendant l'élection, parce que, son ambassadeur a été très très actif pour financer certains aspects de la campagne.
Oui, tout à fait. Ce sont des informations.
Donc cet axe-là fonctionne.
Cet axe-là fonctionne et le fait est qu'on a une certaine convergence d'intérêts entre ces acteurs aujourd'hui. Alors après, il y a un autre acteur dont on n'a pas encore trop parlé, mais qui a fait quand même un grand retour dans la région, c'est la Russie, bien sûr. Donc il y a cette question que veut la Russie et on a vu à cet égard aussi le clan Trump le plus resserré. Là encore, on a des divisions très importantes dans l'administration et au sein du gouvernement américain. Mais il y a aussi Pompeo, son premier voyage là au moment de la crise de la semaine dernière, il est allé rencontrer son homologue russe à Sochi, je crois, pour essayer...
Et il y a aussi un rapprochement sur le dossier du pétrole entre Moscou et Riyad.
Oui, alors ça, c'est aussi lié au fait que les Américains, effectivement, ont beaucoup plus de marge de manœuvre aujourd'hui sur ce... Ça a été dit, effectivement, ils sont devenus premiers producteurs de gaz, de pétrole. Ils ne sont plus dépendants du pétrole du Moyen-Orient. C'est évidemment un facteur essentiel dans cette volonté, finalement, structurelle de désengagement de la région de Obama à Trump.
Retournons vers vous, Pierre-Jean Luizard. Jusqu'à quel point, selon vous, on assiste véritablement à une reconfiguration des alliances au Moyen-Orient et d'une façon, encore une fois, cet axe, ce rapprochement entre Netanyahou et les Saoudiens, par exemple, et un rapprochement resserré, si j'ose dire, et instrumentalisé, favorisé par la Maison-Blanche.
Alors, je crois qu'il y a plusieurs processus et ce qui me rend pessimiste, parce que ce sont des processus qui ne correspondent pas aux intérêts bien compris des uns et des autres, mais qui puisent dans des ressources très largement irrationnelles. Il y a notamment le fait qu'il faut rappeler que le président Trump aux États-Unis dépendait pour son élection du soutien des sionistes chrétiens évangéliques, et que cette mouvance nécessaire donc au président Trump pousse à une alliance stratégique avec le projet de Netanyahou de transformer Israël en état-nation du peuple juif. Et on est là donc dans une croisée des chemins avec un autre processus qui est confessionnaliste et qu'on voit à l'œuvre avec la politique saoudienne et la politique des gouvernements en place à Bagdad et à Damas. Je pense qu'on ne peut pas opposer dans la politique iranienne le nationalisme iranien du chiisme, et la politique iranienne aujourd'hui, à mon avis, n'est pas une politique révolutionnaire. C'est une politique qui utilise les communautés chiites du monde arabe dans une optique qui n'est pas révolutionnaire mais confessionnaliste. Et d'ailleurs le système politique en place aujourd'hui dans un certain nombre de pays arabes ne tiendrait pas si par malheur il s'avérait qu'une guerre éclate entre l'Iran et les États-Unis. Mais ce sont des systèmes qui ne sont pas révolutionnaires, on le voit en Irak aujourd'hui, qui sont rejetés par une immense majorité de la population pour leur corruption et pour le fait qu'ils empêchent tout état de droit de se développer. Donc on est dans une situation où il y a beaucoup de processus qui se rencontrent et qui menacent les différents protagonistes de perdre de vue leurs intérêts communs qui continuent malgré tout à être pris en compte à Washington, puisqu'il faut rappeler que depuis 1990, il y a des intérêts communs entre Washington et Téhéran, notamment dans le fait de considérer la mouvance salafiste djihadiste issue du sunnisme comme la menace principale, puisqu'il faut rappeler que cette mouvance voue une haine identique aux chiites et à l'Occident.
Pierre-Jean Luisa, il y a encore un autre acteur dont on n'a pas encore parlé, qui n'est pas arabe mais qui est sunnite et qui revendique d'ailleurs la direction du mouvement sunnite, c'est le Turc, Erdogan.
Alors, il y a effectivement une rivalité, mais aujourd'hui, au sein du monde sunnite, entre la Turquie et l'Arabie saoudite. La Turquie a pris fait et cause pour le Qatar dans son et pour les frères musulmans dans leur affrontement avec le régime saoudien. Et je crois qu'on est aujourd'hui dans une situation de très grande division du camp sunnite qui est une invitation à prendre une place qui est vacante dans la direction politique et religieuse justement de l'islam sunnite, où chacun essaie de se positionner. Et à mon avis, les Saoudiens sont très mal placés. Leur politique actuelle les a déconsidérés vis-à-vis de ce qui était leur relais traditionnel, c'est-à-dire les frères musulmans, et ensuite Al-Qaïda et Daesh qui ont mis le régime saoudien sur la liste des régimes impies à abattre. Et je pense que les dirigeants saoudiens ont là beaucoup de soucis à se faire, étant donné que, y compris au sein de la famille royale saoudienne, il y a des branches qui s'estiment lésées par Mohamed Ben Salman et qui voient d'un œil plutôt sympathique les mouvements djihadistes qui menacent toute la région et notamment les États.
Fatia Dazeyani, est-ce qu'à votre avis, l'Arabie saoudite est véritablement menacée ou en tout cas affaiblie par la concurrence que voudrait lui imposer le président turc, qui a su utiliser politiquement très très bien l'affreux assassinat de Khashoggi début octobre au consulat saoudien d'Istanbul.
Oui, bien sûr, l'Arabie saoudite n'est pas dans la meilleure des positions aujourd'hui. Maintenant, la Turquie, notamment dans cette crise, est complètement hors jeu. On n'entend pas du tout les Turcs, ils ne sont pas du tout dans le spectre. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur les deux acteurs qui comptent le plus aujourd'hui dans la région. Tout à l'heure, Clément parlait de la Chine, qui est une clé, et Maya évoquait le rôle de la Russie. C'est très intéressant parce que les Russes se sont considérablement rapprochés également des Saoudiens et des Émiratis. Et les Russes exaspèrent au plus haut point les Iraniens aujourd'hui. La présence de la Russie en Syrie rassure énormément les Saoudiens et les Israéliens, d'où l'exaspération des Iraniens. Donc il y a la Russie a peut-être c'est l'État qui a le plus en main les cartes pour essayer de rééquilibrer les choses. La Chine est la clé sur le plan économique. On parle peut-être même de la Chine pour la reconstruction de la Syrie, parce que seule la Chine en a les moyens. Donc, les Européens sont hors-jeu, les Américains font de la surenchère maximale, et les États arabes directement concernés par un potentiel conflit avec l'Iran sont quand même très, très silencieux. Hein. Même si, par voie de presse interposée, on a ici et là des déclarations enflammées, la situation est celle-ci. Et les Saoudiens et les Américains sont en tout cas tous les deux d'accord pour l'objectif, c'est l'asphyxie de l'économie américaine. Excusez-moi pour le lapsus. C'est ça l'enjeu, c'est ça l'objectif.
On voit aussi que Riyad s'efforce de consolider des alliances asiatiques. Là, je crois qu'ils viennent d'effacer une dette à l'avantage du Pakistan, quelques 10 milliards de dollars. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Arabie Saoudite. Absolument. Donc là aussi, il y a un pivot vers l'Asie qu'on mésestime vu d'Europe.
Ça fait une dizaine d'années qu'il a eu lieu ce pivot vers l'Asie en ce qui concerne l'Arabie Saoudite et les autres Émirats, c'est très clair. Et puis, effectivement, si l'Arabie Saoudite, de manière assez hypocrite, est considérée comme un État paria depuis l'affaire Khashoggi, parce que on voit bien que les Européens, les Occidentaux, continuent tous très clairement à considérer que l'Arabie Saoudite est l'économie centrale au Moyen-Orient. Donc, ils vont pas pouvoir s'en passer.
Et donc, un grand acheteur d'armes, et donc c'est toujours absolument. Donc, la même hypocrisie.
Les Saoudiens, pour le moment, ont plutôt beau jeu de se tourner effectivement de plus en plus vers l'Asie. Chine, Inde, l'Inde est un des partenaires futurs de l'Arabie Saoudite qui de plus en plus monte en puissance. Et puis, pour le reste, les Occidentaux restent des clients de toute façon qui sont incontournables pour les Saoudiens.
Clément Terme, on en revient quand même à cette question centrale. Comment éviter cet engrenage qui, tout au long de cette semaine, je le rappelle, et ce matin encore, entraîne, clic par clic, Téhéran et Washington à une politique du pire?
Oui, c'est le risque d'avoir, ce qu'on disait à Abu Dhabi, un État failli, un fail state. Est-ce que la région peut se permettre d'avoir un nouvel État failli après le Yémen, l'Irak, la Syrie? Je crois que
il y a un État failli qui serait lequel? L'Iran.
Oui. Donc parce qu'en fait, l'asphyxie économique ne conduit pas, contrairement à ce qui a été dit, à un affaiblissement du soutien au proxy. Il y a une reconfiguration du soutien et de la relation.
Enfin, le Hezbollah a quand même beaucoup moins d'argent.
Oui, Georges Malbruno a fait un article remarquable dans le Figaro. Ouais. Il a bien expliqué la baisse des salaires, etc., les difficultés économiques du moment, mais aussi la deuxième partie de l'article, n'oublions pas, la capacité à s'autofinancer et le cadeau qui est fait aussi par les États-Unis avec ces sanctions aux gardiens de la Révolution, parce qu'ils vont augmenter leur influence sur l'économie iranienne et leur réseau de contournement des sanctions vont se renforcer. Donc les capacités d'autofinancement des intermédiaires de l'Iran, que ce soit les milices chiites, le Hezbollah libanais ou le régime syrien, qui est aussi sous sanctions, donc va conduire à une solidarité des sanctionnés. Parce que les sanctions visent tout le monde, ne visent pas que l'Iran. Donc c'est paradoxal. C'est-à-dire que d'un côté, sur le plan politique, ils sont renforcés, l'Iran est affaibli globalement, mais c'est la population qui souffre. Et d'où la confusion vue du monde arabe, souvent entre la nation et la révolution iranienne. C'est pas la même chose, parce que c'est la nation qui souffre quand la révolution gagne. Et vu du monde arabe, il y a tout le temps cette confusion entre la dimension nationale de l'identité iranienne et révolutionnaire. Mais vu d'Iran, la population iranienne voit très bien ce que la révolution islamique a conduit en termes de menaces pour les intérêts nationaux de l'Iran et le naufrage économique du pays. Et ce naufrage pourrait entraîner la région. Et c'est là où cette semaine est intéressante. C'est que la région a compris, en tout cas pour les Émirats et le Bahreïn, c'est sûr, que ce risque d'un effondrement de l'Iran, de l'économie et de l'État iranien aura aussi des effets pour la prospérité économique de la zone. Et c'est ça la nouveauté de la semaine.
Mais sur la situation de la population en Iran, on se souvient, l'année dernière, surtout, il y avait eu des manifestations assez violentes dans les campagnes, surtout, pas seulement dans les grandes villes. On voit évidemment que la classe moyenne s'appauvrit. Est-ce que les manifestations peuvent reprendre, ce qui serait évidemment vu de Washington et d'ailleurs, et de Jérusalem.
C'est le but
comme
de John Bolton. Créer, oui. C'est ce que,
mais est-ce qu'il y en a est-ce que la population
se révolte ?
Oui,
il y a eu des étudiantes qui ont manifesté récemment à l'université Téhéran contre le voile obligatoire. On a des grèves à répétition. Donc oui, il y a une contestation qui est sous-jacente. Mais l'erreur des Américains de John Bolton, et ça c'est depuis l'idéologie néoconservatrice de Condoleezza Rice, on peut retracer ça, c'est l'idée du chaos constructif. C'est de penser que en fait, on est capable, depuis l'étranger, de susciter cela. Et c'est une erreur, parce que ces manifestations sont très anciennes. Donc il y avait en 1999 des manifestations d'étudiants en Iran. Donc c'est pas M. Trump qui provoque M. Bolton ces manifestations. Ce mécontentement existait déjà. Mais de croire qu'on peut le contrôler et le manipuler depuis l'étranger risque non pas de conduire à une démocratie iranienne, ce que tout le monde souhaite, mais à un État failli en Iran. Et ça, on le sait, parce que les leçons des guerres et des interventions militaires, et Jim Mattis l'a dit à Abu Dhabi,
l'ex-ministre de la Défense,
voilà, a dit, les États-Unis doivent moins recourir à l'outil militaire dans leur diplomatie, dans la région. Et cette fatigue de guerre dont j'ai parlé dans la région existe aux États-Unis, et ça c'est l'espoir, et en Iran, parce qu'il y a la mémoire de la guerre Iran-Irak, de la population
bien
iranienne.
Et
cette souffrance de la population iranienne, même si elle est dans la peur aujourd'hui, et le principal espoir, c'est-à-dire que la République islamique ne peut pas se permettre de confronter sa propre population en déclenchant une guerre régionale, parce que la population iranienne est pacifique et refuse les interventions militaires de l'Iran dans la région.
Le guide suprême, donc Khamenei, a accusé publiquement, semble-t-il, celui qu'on appelle le président, Rouhani, et le ministre des Affaires étrangères, Zarif, en disant « Vous n'avez rien compris, vous êtes d'une naïveté confondante. Négocier avec les États-Unis, c'est comme boire du poison. »
Oui, il a dit même avec cette administration, c'est boire deux fois du poison.
Deux fois.
Donc, et ça, c'est une expression...
Mais là aussi, c'est quoi ? C'est un jeu de clans à l'intérieur. Il doit y avoir des élections, en principe, en
c'est
Iran.
C'est ça. 2020, les parlementaires. 2021, les présidentielles. Donc, tous les analystes de l'Iran disent depuis plusieurs mois, c'est le risque d'avoir un Trump iranien en 2021 et un extrémiste comme président. Mais en même temps, ces déclarations du Khamenei...
On ne l'a pas déjà ?
Non, parce que quand même, on travaille sur la survie. Pour l'instant, on a une modération iranienne par rapport au nucléaire. C'est ce qui intéresse, parce qu'il y a ce risque dont j'ai parlé tout à l'heure, que la réaction iranienne entraîne à une unité de la communauté internationale autour de Trump. Et ça, le régime en est conscient à Téhéran. Donc, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que cette expression du poison est très importante. Parce que c'est l'expression que Khomeini a utilisée quand il a signé le cessez-le-feu, et non pas le traité de paix, parce que certains historiens ont parlé d'un traité de paix par rapport à la guerre Iran-Irak de 1980-1988. Il a dit, c'est boire une coupe de poison, Khomeini. Donc, ça veut dire que, quand la survie du régime est menacée, à ce moment-là, Khamenei est prêt à suivre la naïveté de Zarif et Rouhani pour l'équilibre dont j'ai parlé tout à l'heure entre la survie et la dimension révolutionnaire. C'est la définition même de la politique étrangère de la République islamique depuis 1979 et la prise d'otage des diplomates américains. Et on n'est pas sorti de ça avec les Américains. Et c'est pour ça que je suis très inquiet, parce que Trump peut créer du consensus aux États-Unis sur l'Iran. Seulement, la divergence, à mon avis, aux États-Unis, c'est sur la méthode, la guerre. Parce que la plupart des milieux stratégiques ont pris conscience de la faillite idéologique du néoconservatisme, mais la politique étrangère américaine reste encore marquée aujourd'hui sur la question iranienne par la prise d'otages de 1979.
Maya Kandel, vous êtes de cet avis aussi. Jusqu'à quel point est-ce que l'administration Trump comprend que tous ces ingrédients, cette politique, ce primat accordé à l'arme économique aboutit finalement à des résultats contraires pour le moment.
Il y a une chose d'abord quand même qu'il faut rappeler, parce qu'il a été beaucoup question du néoconservatisme. L'élection de Trump, l'OPA de Trump sur le Parti républicain est avant tout une réaction des électeurs américains, républicains en particulier, contre les néoconservateurs. Il y a vraiment, ça c'est très important quand même à rappeler sur Trump. Je reviens pas sur Bolton néoconservateur, puisque c'est quand même pas un débat qui est absolument passionnant pour nous Français. Effectivement, je pense que les Américains sont conscients. Non, le problème, c'est que les Américains, visiblement, ne voient pas à quel point leur politique de sanctions est contre-productive. D'ailleurs, juste pour évoquer Cuba, c'est en train d'avoir le même effet là-bas, c'est-à-dire un resserrement de la population autour d'un régime moribond qui, sinon, était en train de s'ouvrir. Donc, il y a quand même un grand paradoxe. Il y a aussi ce paradoxe, il faut quand même les rappeler que la politique américaine depuis 20 ans dans la région a été une succession de cadeaux à l'Iran, donc c'est quand même assez incroyable. En revanche, je crois qu'il faut vraiment séparer la question du nucléaire de la question de la politique régionale. Et par exemple, sur le nucléaire, je pense pas, et d'ailleurs on l'a vu, et c'est aussi une conséquence d'autres aspects de la politique de Trump, très méprisante vis-à-vis des alliés, notamment des Européens. Pompeo a fait son petit tour des capitales européennes pour avoir le soutien des Européens sur l'Iran, il est reparti, sans rien, bredouille. Donc ça, il faut quand même, et ça, heureusement, il y a quand même une réaction à ça. Après, ça n'enlève rien aux autres sujets qui ont été évoqués, qui sont essentiels, qui sont la suprématie du dollar, qui sont l'autonomie des acteurs privés qui veulent garder leur accès au marché américain. Et la Chine est aussi concernée là-dessus. La Chine est dans sa guerre commerciale, mais elle est pas non plus totalement audacieuse, même vis-à-vis de l'Iran, parce qu'elle craint encore la perte de l'accès au marché américain.
Le Moyen-Orient compliqué et dont le sort pèse tellement sur nous et sur nos économies et pour l'équilibre du monde. Merci à vous tous. Merci à vous, Maya Kandel. Vous avez publié Les États-Unis et le monde de George Washington à Donald Trump. C'est vrai que c'est un curieux raccourci. Chez Perrin en 2018. Merci à Fatia Dazieni. L'Arabie Saoudite en 100 questions chez Taliandier. Clément Terme, vous avez publié votre thèse Les relations entre Téhéran et Moscou depuis 1979 et vous avez publié un papier très intéressant sur les liens justement entre l'Iran et la Russie dans le numéro de l'automne dernier du Middle East Journal. Je remercie bien sûr Pierre-Jean Luisard qui a publié La République et l'Islam aux racines du malentendu, c'était chez Taliandier cette année. Et d'autres ouvrages bien sûr que je vous recommande, notamment le piège Daesh, je vais y arriver. Merci à Eric Scholl, Courrier International, à la réalisation ce matin Luc-Jean Reynaud, à la technique Clément Daté, Meryl Moneghetti a comme chaque semaine préparé cette émission et comme chaque samedi, vous avez rendez-vous maintenant avec Hervé Gardette. Passez un bon week-end électoral.